Bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir d'être avec chacune, chacun. Merci Seigneur. Et donc, il y a des personnes en ligne, c'est ça actuellement ? Ben, bonjour aux personnes en ligne alors. Que Dieu vous bénisse aussi là où vous êtes et vous fasse du bien. Merci pour l'invitation. Et alors, je me disais, pendant plusieurs années, quand je venais ici, il y avait toujours un sujet de prière. C'était le pasteur. À chaque fois, ça en est. Et maintenant, on peut dire merci Seigneur parce que ce sujet de prière est un sujet de louange. Donc, gloire à Dieu et encore salutations aussi au pasteur Philippe m'avoir invité. Vous êtes dans une série très intéressante, une série sur Malachie. Et donc, c'est assez rare que je sois invité pour prêcher sur des petits prophètes dans une église. Et je trouvais vraiment ça super de pouvoir justement aborder ce sujet. Et c'est le dernier livre non seulement des prophètes, mais de l'Ancien Testament, dernier livre de Révélation. Et vous avez pu voir pendant ces différentes séries que Malachie est en train de présenter la cause de l'Éternel face à un peuple qui est dans une situation de corruption morale à différents niveaux. Ils ont perdu beaucoup de choses. Vous avez vu qu'ils reprochent à Dieu de ne pas les avoir aimés. Ils reprochent à Dieu, ils ont une attitude vis-à-vis du culte qui n'est pas juste, notamment les prêtres qui ne font plus leur rôle comme ils devraient. Ils ont des mariages avec des personnes de peuples étrangers qui n'adorent pas Dieu. Ils ont des divorces, ils accusent Dieu d'injustice, ils ne donnent pas la dîme et les offrandes. Et on arrive sur ce sixième et dernier échange entre le peuple et Dieu, où Malachie est un petit peu comme le porte-parole. Justement, c'est sur ce sujet de à quoi sert-il d'être juste ? À quoi sert-il de servir Dieu ? Et nous le voyons, et donc les trois parties que j'aimerais aborder avec vous, justement, c'est cette question, partir de cette question-là, quel est l'intérêt, entre guillemets, de servir Dieu ? Et ensuite, nous verrons que Dieu présentera l'issue de celui qui sert Dieu et de celui qui ne sert pas Dieu. Et enfin, on verra qu'il termine non seulement ce dialogue, mais finalement la Bible de l'Ancien Testament et ce livre de Malachie avec une exhortation centrale, mais aussi une espérance magnifique. Donc voilà un petit peu les trois parties de notre message pour cet après-midi. Le peuple de Dieu a des paroles dures contre l'Éternel. Et on sent que Dieu est touché, si on peut parler de Dieu qui est touché, vous avez vu ? Vos paroles sont dures contre moi. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça à quelqu'un. Tes paroles sont dures contre moi. Tu me touches au plus profond de qui je suis. La façon dont tu me traites, c'est pas sympa, on pourrait dire. Et eux, ils disent, mais comment ça, on est dur avec toi ? Parce qu'ils ne veulent pas être, et je pense que vous l'avez vu pendant ces dernières prédications, à chaque fois que Dieu leur reproche quelque chose, ils disent, comment ça, nous, on est refait ça ? Et là, Dieu leur explique. Est-ce qu'ils l'ont dit fortement ? Est-ce qu'ils l'ont dit en murmure ? Mais ils ont une phrase très dure contre l'Éternel. Ils ont une phrase très, très dure. Et on le voit ici, au verset 14. C'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil ? Alors le peuple d'Israël a entendu parler de toutes ces bénédictions que l'Éternel a données aux anciens, aux patriarches, à Abraham, à Jacob, à Isaac, à Moïse, l'ouverture de la mer Rouge, toutes ces grandes victoires. À Josué, il a entendu tout ça. Et donc, il a cette image, il connaît quand même que Dieu peut bénir. Mais là, dans la situation où il est, il se plaint et il dit, mais à quoi ça sert qu'on serve Dieu ? Où sont les bénédictions promises ? Où est la prospérité promise qui doit suivre si on suit Dieu ? Et là, on a l'impression de suivre Dieu. Et ils sont, pour vous qui êtes dans la série de Malachie, vous savez que ça n'a pas toujours été le cas. Ils n'ont pas toujours suivi Dieu. Mais en tout cas, ils disent, alors, où est notre bénédiction ? Où est la réponse à nos efforts? Et c'est vrai que parfois, nous aussi en tant que croyants, même en tant que croyants, nous pouvons avoir cette pensée. Et on n'osera pas forcément le dire aux frères et sœurs de l'Église. On n'osera pas dire, bon, ça ne sert à rien, franchement, de venir à l'Église si c'est pour... Mais le cœur de l'homme peut tomber dans ce questionnement. Et pas les plus pires, pas les hommes et les femmes les pires de l'humanité. Le psalmiste lui-même, dans le psaume 73, a eu ces questionnements. Je vous propose de le prendre parce qu'il est vraiment intéressant et vous verrez qu'il s'est posé des questions. Voilà ce qu'il dira au psaume 73. Verset 2, « Mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. J'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Leur corps prend l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. » Il est en train de regarder les vantards, il est en train de regarder les orgueilleux. Ils disent, mais eux, ils vont bien. Vous avez entendu, moi, je ne vais pas bien. J'ai des épreuves, eux ils n'en ont pas. J'ai des difficultés, eux ils n'en ont pas. Et il va continuer, il dit, le peuple lui-même est dedans, verset 10, son peuple se tourne de leur côté, il boit leurs paroles en parlant des méchants. Comment Dieu pouvait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance? C'est le Très-Haut, il commence à interroger l'Éternel, est-ce qu'il voit les méchants? Est-ce qu'il les laisse être bénis? Les hommes et les femmes qui sont sur cette terre peuvent parfois se poser des questions. Est-ce que ça sert vraiment de servir Dieu? Est-ce que c'est vraiment utile? Je me rappelle cette personne qui très souvent me parlait de son frère. Cette personne était chrétienne. Elle avait un frère qui était pharmacien et qui avait réussi sa vie, qui avait eu des enfants et qui prospérait à vue humaine. Et cette personne chrétienne me disait, mais Ruben, regarde mon frère. Regarde-lui, au moins il a réussi. Regarde-lui, au moins il est... Et je lui ai dit, mais lui, il n'est pas chrétien. Mais il n'arrivait pas à voir la force que lui, il avait, que lui, il était chrétien et son frère ne l'était pas. Il voyait juste que son frère avait réussi matériellement. Je me rappelle de cette sœur chrétienne qui disait, Ruben, regarde, eux, ils ne font même pas attention, ils ne cherchent pas à honorer Dieu, et ils ont des enfants, et moi, j'en ai pas. Ils ont trouvé un mari, et moi, j'en ai pas. Et il y a ce cœur intérieur qui se dit, regarde, moi, j'essaye de faire le bien, j'essaye d'honorer Dieu, et je n'ai pas ce que les autres qui n'honorent pas Dieu ont. Et c'est vrai que parfois, il y a des questions comme ça qui peuvent arriver à notre cœur. Très récemment, dans notre église, il y a quelques mois, on a prié pendant plusieurs mois pour un frère, il avait le cancer. Pendant un an, il a tenu, il y a eu des bons moments, des hauts et des bas, et il est décédé. Il y a un frère qui m'a dit de l'église, à quoi ça sert de prier? C'est vrai, on peut se poser la question. Il me dit, mais s'il est décédé, à quoi ça sert de prier? Et donc, la question du peuple d'Israël ici, qu'ils ont posée au temps de Malachie, peut arriver encore aujourd'hui et arrive encore aujourd'hui. Et que dans notre vie, parfois, on peut se dire, mais au final, pourquoi honorer Dieu? Si c'est pour ne pas avoir les bénédictions matérielles et pour que ceux qui n'honorent pas Dieu, ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui ne croient même pas en Dieu, eux, ils reçoivent cela. Et ils vont très très loin, le peuple d'Israël. Mais là où Dieu aussi va leur reprocher, c'est qu'ils vont pas juste dire à quoi ça sert d'honorer Dieu, c'est qu'ils vont avoir une conclusion radicale. Regardez leur conclusion, verset 15. Nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent, ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Dieu a dit, ne soyez pas arrogants, ne faites pas le mal, et ils disent, en fait, eux, c'est les heureux. C'est presque qu'ils disaient, ben, finalement, autant faire le mal, quoi. Autant être arrogant, autant être orgueilleux. Voilà leur conclusion. Conclusion dure, conclusion rude contre l'Éternel, conclusion qui retourne les choses où Dieu disait « Les bénédictions viennent à ceux qui m'accompagnent, ceux qui me suivent » et eux ils disent « Non, en fait c'est le contraire. » Et finalement Dieu devient le rapport, la jonction qui fait « Est-ce que tu es béni ?» C'est quand tu ne suis pas Dieu et quand tu suis Dieu finalement tu n'es pas béni. Quelle parole dure, quelle parole presque blasphématoire de la part du peuple d'Israël au vu de la situation. Et alors, quelle est la réponse de l'Éternel? Et peut-être c'est l'encouragement aussi pour celles et ceux, pour ce frère, pour cette sœur dont je vous ai parlé, qui constate qu'elle n'a pas eu d'enfant, ou elle n'a pas trouvé quelqu'un dans sa vie, que lui, il n'a pas eu le travail qu'il voulait, et son frère qui n'est pas chrétien, il a trouvé un travail, un super travail. Peut-être que vous avez des gens aussi autour de vous qui sont comme ça, mais Ruben, finalement, à quoi sert-il de servir Dieu? Eh bien, Dieu va se tourner vers ceux qui ne l'ont pas abandonné, vers ce reste fidèle. Et nous le voyons au verset 16. Il va se tourner vers eux, et à partir de cet exemple de ces personnes-là, il va justement expliquer et répondre. Quelle est la différence? Verset 16, « Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui respectent son nom. » Alors ce qu'on comprend ici, c'est que ces hommes et ces femmes qui craignent l'Éternel, qui sont le reste fidèles, se sont encouragés mutuellement et ont dit, comme ça a été fait plusieurs fois, ils ont listé les actions et leur volonté de servir Dieu, où ils ont listé les noms de ceux qui étaient fidèles. Néhémie et Esdras, qui sont, on pense, des contemporains de Malachie, ont fait ces choses-là, on le verra dans, on le voit dans Néhémie 10, on le voit, il y a une liste de noms qui sont inscrits, de personnes qui se sont repenties, et donc on pense que c'est ceux-là qu'ils font ici. Néhémie 7 aussi, on verra cette liste. En Esdras 10, on voit cette liste. Ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui respectent son nom, écrivent un livre et disent « Nous, on suit l'Éternel, voici ce qu'on croit, voici ce qu'on veut accomplir. » Et quelle est la réaction de Dieu face à ce peuple qui le suit? Tout d'abord, il est attentif et il les écoute. Et très souvent, quand on dit « il est attentif et il les écoute », ce n'est pas juste « Ah, j'ai entendu ta parole », c'est « Je prends en compte ce que tu as dit et je vais y répondre. » Tu as mon affection, tu as mon accompagnement. Je suis engagé avec toi. Et au verset 17, on voit la bénédiction qu'ils reçoivent, ces personnes. Et ça, c'est la bénédiction qui n'a pas de prix. Verset 17. Ces personnes-là qui ont suivi mon nom, qui me craignent, que vous vous dites que ça ne sert à rien de me craindre, eh bien voici ce qu'ils recevront. Ils seront « À moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, ils m'appartiendront le jour que je me prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Les hommes et les femmes d'Israël cherchaient la bénédiction matérielle, cherchaient la bénédiction de prospérité. Et ils avaient oublié la plus grande bénédiction qu'ils avaient, c'est d'être le peuple de Dieu. Lui-même, c'est d'appartenir à Dieu, c'est d'être connu de Dieu, c'est d'avoir été choisi par l'Éternel lui-même. Là est la plus grande des bénédictions, c'est de connaître et d'être connu de Dieu, c'est d'appartenir à ce Dieu de l'univers, c'est d'être désigné comme son peuple. Et c'est vraiment cette relation privilégié que Dieu a mis en place avec son peuple, que le peuple a perdu de vue. Et ça rejoint ce que le psalmiste dans le psaume 73 va dire aussi. Il va prendre conscience, il va dire, regardez ce qu'il va dire au verset 21, lorsqu'il regardait les méchants et qu'il s'agaçait de les voir prospérer, « Lorsque mon cœur était aigri et que mes reins étaient transpercés, en fait j'étais idiot. » Bon, c'est dans la Bible, hein. Et je ne me comprenais rien, verset 22. J'étais devant toi comme une bête. Mais en fait, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil. Tu me prendras dans ta gloire. Qui d'autre au ciel ai-je que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. » Le plus grand privilège du psalmiste, c'était d'être connu de l'Éternel. C'est d'avoir cette relation avec l'Éternel. Ça nous rappelle des textes que nous connaissons. Ésaïe, qui en parle très bien, 29-13. « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur, vous connaissez la suite, est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Dieu est en train de remettre les choses au clair. Attendez, le plus grand privilège que vous avez, ce n'est pas que je vous bénisse, c'est que vous et moi, nous sommes en intimité. C'est que vous et moi, nous ayons une relation particulière. C'est que vous et moi, nous soyons, et là, l'image qu'il va donner, vous avez vu, elle est très puissante, comme père et fils. S'il y a bien une relation qui est forte dans l'humanité, c'est la relation des parents avec leurs enfants. L'affection que les parents ont, quels que soient leurs enfants, ils veulent les aimer. Et c'est l'image que Dieu veut leur donner. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Pour nous aussi, les amis, n'oublions pas le plus grand de nos privilèges. C'est que vous connaissez l'Éternel. Et alors, comment connaître l'Éternel aujourd'hui? Eh bien, l'Éternel, justement, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique, pour que nous puissions devenir fils et filles de l'Éternel. Pour que nous puissions avoir cette proximité, cette intimité avec lui, pour que nous puissions être connus de lui et que nous puissions le connaître. Jésus-Christ est venu pour que vous et moi, nous puissions être en contact avec le Dieu créateur et que nous puissions être réconciliés avec lui, que nos péchés, nos fautes, tout ce qu'on a fait de mauvais qui nous sépare de cette bonne relation avec Dieu puisse disparaître et que nous puissions avoir cette relation intime. C'est pas merveilleux ça, de pouvoir dire je suis enfant de Dieu, je suis fils et fille de Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'avoir cette relation intime? Et parfois on peut l'oublier, parfois on peut oublier que c'est un privilège immense. Mais rappelons-nous que cette proximité avec Dieu, elle est juste merveilleuse. Et elle dépasse toutes les bénédictions qu'on pourrait avoir. Et là, l'affront que le peuple d'Israël donne à l'Éternel, j'ai essayé de trouver une image et je me suis dit, c'est comme si je me marie avec mon épouse, et on se marie et puis après 6 mois, je viens la voir et je lui dis, écoute, ça fait 6 mois que je suis avec toi et mon salaire n'a pas augmenté. Ben écoute, on va arrêter là. Mais attends, tu t'es pas marié avec moi pour que ton salaire augmente quand même. Tu t'es marié avec moi pour moi. Nous sommes en relation pour l'un et l'autre, pas juste parce que ton salaire va augmenter ou pas. Pas juste parce qu'on va avoir une meilleure voiture. Pas juste parce qu'on va avoir une meilleure maison, c'est parce qu'on est, on s'aime l'un et l'autre, on développe une relation, une intimité. Et là, le peuple d'Israël, son peuple, le peuple de l'Éternel, honorait l'Éternel de ses lèvres, mais son cœur n'était plus là. Et nous aussi, frères et sœurs, veillons à ne pas oublier que ce qui compte pour Dieu avant tout, c'est cet échange, cette intimité, cette relation que nous pouvons avoir à travers l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui a ouvert une voie, Jésus-Christ a ouvert une voie pour vous et moi, pour que nous puissions être en intimité avec Dieu. C'est merveilleux. Pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions le glorifier, pour que nos cœurs puissent l'aimer. Et vous connaissez le plus important commandement, le premier commandement, c'est tu viendras à l'église de Saint-Maur tous les dimanches après-midi. Non ? Tu donneras ta dîme. C'est tu servira en attendant que tu aies la bénédiction. Non, c'est tu aimeras. Voilà ce que Dieu attend de nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà l'appel que Dieu a pour chacune et chacun. Alors frères et sœurs, venons à notre Dieu et disons merci. Merci d'être en relation avec toi. Quelle grâce immense de te connaître, de t'appartenir, d'être ton enfant. Rien que ça, c'est juste merveilleux. Paul dira en Philippiens chapitre 3, toutes ces choses, et là il parlait de choses bonnes, hein. Il parlait du fait qu'il était pharisien, qu'il appliquait la loi, qu'il était né d'Hébreu, qu'il était de la tribu de Benjamin. Là, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain à vue humaine, eh bien en fait, face à la connaissance de Jésus-Christ, c'était une perte. Parce que la connaissance de Jésus-Christ, être déclaré juste devant Dieu par Jésus-Christ, ça c'est mon trésor. Et bien que Dieu nous aide à avoir cette prise de conscience. Et je ne sais pas ce que vous traversez. Peut-être que vous traversez des moments difficiles. Peut-être que certains sont dans des circonstances difficiles dans leur travail. Peut-être même votre situation maritale n'est pas, aux yeux des hommes, la meilleure. Peut-être que votre situation de santé n'est pas la meilleure. Et peut-être que vous vous complexez face à cela. Peut-être que vous regardez votre voisin en disant « Lui, au moins, il a ça. Elle, au moins, elle a ça. » N'oubliez pas le trésor que vous avez en connaissant Dieu par Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Rappelons-nous la beauté qu'il y a d'être appelé de l'Éternel, fils et fille de Dieu, et de savoir qu'il a compassion de nous. Alors certains diront, j'ai cette relation, mais comment ça transforme, comment ça change mon quotidien ? Eh bien, le fait d'avoir une personne avec qui tu échanges quotidiennement, bien évidemment, ça te transforme. Le fait d'être en contact avec Dieu, avec lui, ça te transforme. Mais ce que Dieu va dire, il va continuer. Il va continuer, il va dire, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu le jour où je vais venir. Et il annonce qu'il va venir. Verset 19, voici le jour, un jour brûlant comme un four. Dieu va venir. Et vous l'avez vu que l'Éternel va se manifester dans Malachie chapitre 3, verset 1. J'enverrai mon messager pour me préparer le chemin, et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance, celui que vous désirez, qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Dieu va venir, Dieu va se manifester, Dieu va agir. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque Dieu va agir, d'après ce texte ? Deux choses. La première, c'est que les fameux hommes et femmes que vous disiez, qui sont heureux, que vous avez mentionnés, les arrogants, ceux qui font le mal. Vous savez ce qui va se passer ? Ça va être un jour brûlant pour eux. Ils vont devenir comme de la paille. Il ne leur sera rien, ni rameau, ni racine. Ils vont être consumés. Et vous savez ce que ça veut dire, hein, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de consumer, lorsqu'on parle d'être brûlé, c'est le jour du jugement. Il y aura un jour de jugement pour eux. Et c'était le peuple qui, deux discours auparavant, qui demandait la justice, il dit, oui, ça va arriver ce jour de jugement. Ça va arriver ce jour de justice. Mais ça va être un jour difficile, où nous allons déclarer injuste et donc condamner celles et ceux qui n'auront pas suivi la voie de l'Éternel. Cela va arriver. Et donc il leur rappelle cela. Il leur dit, oui, vous cherchez voir la différence entre le juste et l'injuste, ben vous allez le voir particulièrement le jour du jugement. L'Éternel fera le tri. Il dira à côté, par contre, verset 20, « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable, vous piétinerez les méchants car ils sont comme de la poussière sous la plante de vos pieds le jour que je prépare. » dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Autant quelques-uns seront détruits, autant d'autres seront sauvés et bénis. Y a-t-il une différence entre le juste et l'injuste ? Y a-t-il intérêt à servir l'Éternel ? Oui, car celui qui sert l'Éternel sera béni et passera le jugement. Celui qui ne sert pas l'Éternel sera condamné et sera puni. Et vous l'avez déjà vu dans les chapitres précédents, dans les discours précédents, oui, il y aura justice. Et notre cœur attend justice. Je pense quand vous regardez les articles des journaux comme moi, quand on entend qu'il y a eu une agression importante ou un meurtre, on espère tout de suite après qu'on a trouvé le coupable, n'est-ce pas ? On veut qu'il y ait justice, ça fait partie de nos valeurs, on veut vraiment qu'il y ait justice. Eh bien, Dieu fera justice, oui. Mais la question, la vraie question derrière, c'est « Et moi, de quel côté je serai quand il fera justice ? » Est-ce que je ferai partie de ceux qui sont condamnés ou partie de ceux qui sont bénis ? De ceux qui verront le soleil de justice, qui verront la guérison, qui seront bénis ? Voilà une question importante à se poser. Alors, quand il parle de « vous piétinerez les méchants, vous sortirez en bondissant comme des veaux d'une étable », en fait, c'est cette image, pour ceux qui ont déjà été à la ferme, et justement en particulier à ce moment-là, quand il y a ces veaux qui sont bien nourris, qui sont bien traités par les fermiers, dès que vous ouvrez l'enclos, ils sont très heureux, ils sautent tout de suite, donc il y a ce côté un peu joyeux, heureux, plein de vie, plein de vigueur, donc voilà, juste pour clarifier un petit peu cette image, donc c'est vraiment cette notion de justice, de joie, de rayonnement. Et alors ce qu'on croit, nous, c'est que cela va arriver, oui, et que tout le monde a besoin d'entendre cela, qu'un jour justice sera faite. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent « Ruben, tu sais, moi, je ne crois pas en Dieu parce qu'il se passe trop de mauvaises choses sur cette terre. » Et souvent, je leur réponds « Si, un jour, il y aura justice, mon ami, mais où est-ce que tu seras à ce moment-là ? Est-ce que tu feras partie de ceux qui sortent du jugement ou pas ? Dieu fera justice. Mais la parole de Dieu dit qu'il est encore patient, l'Éternel est patient en attendant. C'est pour ça qu'il n'a pas encore fait son jugement. Mais un jour, l'Éternel reviendra à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra et il sera trop tard. Il sera trop tard. La justice sera rendue. Les hommes justes seront bénis et les injustes seront punis. Et peut-être comme moi, vous diriez « Oula, j'aurai quand même pas mal de choses à me reprocher quand Jésus reviendra. » Mais c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, que nous prêchons une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle avait déjà été pré-annoncée. Et c'est pour ça que, contrairement à beaucoup de prophètes, ici, le jour de l'Éternel est non seulement une malédiction pour ceux qui ont mal agi, mais aussi une bénédiction. Très souvent, dans l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel, c'est un peu le jour du jugement et de la condamnation. Mais ici, on voit que le jour de l'Éternel, c'est aussi le jour de la délivrance. Et pourquoi particulièrement pour Malachi ? C'est parce qu'en fait, Malachi, vous savez ce qu'il est en train de faire, vous l'avez déjà vu, il est en train de pointer vers une personne. De pointer vers un événement majeur. Il est en train de pointer vers l'arrivée du Messie. Et quel va être le rôle du Messie ? Ça va être d'apporter le pardon. Et vous et moi, comme ces gens du peuple d'Israël, nous avons besoin de pardon. Nous avons fait tellement de mauvaises choses dans notre vie, nous sommes tellement de fois éloignés que nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de venir à Dieu en disant, en fait, Seigneur, si ton jugement tombait aujourd'hui, je ne serais pas parmi les justes. Si ton jugement devait s'accomplir aujourd'hui et que tu devais compter mes actions, en fait, j'ai trop de mauvaises actions. Si on reprend tout ce que Dieu a reproché au peuple d'Israël dans Malachie, on pourrait se retrouver. Infidélité de cœur, reproche à Dieu, une générosité qui n'est pas toujours présente, négliger l'Éternel. Et nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de ce Messie qui vient, Jésus, et qui vient porter sur lui notre péché, nos bêtises, nos erreurs, nos errements. Alors, venons à Jésus-Christ, demandons-lui pardon. Et alors, ce qui est merveilleux, les amis, c'est qu'il est dit que celui qui vient à Jésus, qui reconnaît Jésus comme son sauveur, qui confesse ses fautes, il est déclaré juste. Waouh ! Il est déclaré juste, alors qu'il ne l'était pas. Pourquoi ? Parce que Jésus lui donne sa justice, le couvre de sa justice. Pour terminer, voici l'exhortation que Malachi donne et l'espérance qu'il ouvre derrière, le verset 22. « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse que j'ai donnée en Horeb pour tout Israël, des prescriptions et des règles. Souvenez-vous de ce temps d'alliance que j'ai fait avec vous. Souvenez-vous de cette parole que je vous ai donnée, où je vous ai donné la direction à suivre. Souvenez-vous comment vous êtes appelés à m'obéir. Ne négligez pas cela. Souvenez-vous que c'était pour vous, peuple d'Israël, que j'ai confié cela. Rappelez-vous de la loi. Rappelez-vous de mes commandements. Revenez à moi, finalement. Revenez à l'obéissance. Revenez de mes mauvaises actions. Souvenez-vous de cela. » Et bien évidemment, derrière, en se souvenant, c'est mettre en pratique que l'Éternel est en train de demander. Et après les avoir encouragés à revenir justement à l'obéissance, il va leur donner cette perspective, cette espérance. « Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce grand jour est redoutable. Il ramènera les cœurs des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. » Ici, Dieu est en train de leur dire « Je vais préparer mon retour, puisque vous vous rappelez, à Malachi 3, chapitre 1, voici, j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. » Comme dans cette époque, on annonçait les grands personnages, il y avait quelqu'un qui arrivait, qui préparait justement le chemin. Eh bien, c'est la même chose que l'Éternel est en train de dire. Et l'objectif de ce prophète Élie, c'est qu'il ramène le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ? Pourquoi le prophète Élie ? Beaucoup se sont posé la question, est-ce que Élie va revenir physiquement ? Bon, vous connaissez la fin de l'histoire, mais à ce moment-là, il ne savait pas forcément ce que voulait dire exactement le prophète. Mais au moins, en tout cas, le prophète Élie, il était connu pour être un prédicateur, un prophète qui annonçait les choses dans un temps de le pays était corrompu, et il fallait être courageux pour défendre l'Éternel et ses paroles. Le prophète Élie a annoncé dans une époque où la morale n'était plus là, il a toujours rappelé à l'Éternel, il a toujours rappelé à revenir à Dieu, à abandonner les prophètes de Baal, abandonner tout ce qui déshonore Dieu et revenir à la justice, revenir à l'Éternel. Et donc en comprenant qui était le prophète Élie pour le peuple d'Israël, on peut essayer de mieux comprendre le rôle de ce de celui qui va précéder l'Éternel. Il ramènera les pères à leurs enfants. Et en fait, ce que beaucoup comprennent, alors on se pose la question, est-ce que ça veut dire qu'il va réconcilier les pères des enfants avec les pères avec les enfants ? Et en fait, ici, on peut voir que c'est plutôt qu'il va ramener le peuple, enfants et parents, devant l'Éternel, dans une conversion, dans un retour à Dieu, tout le monde, père et enfant. Et cette expression de père et enfant pour dire tout un groupe, une unité de personnes apparaît plusieurs fois dans la parole de Dieu. D'autres ont compris aussi qu'il va lier les pères patriarches à la nouvelle génération, mais la première interprétation que je vous ai donnée est celle qui a le plus de résonance avec les commentateurs. Et ce qui est intéressant, les amis, et ça vous le savez parce que vous étudiez la parole de Dieu, c'est que vous avez vu dans Malachi, il dit que ce messager, ce nouvel Élie, il va précéder qui ? D'après Malachi, c'est qui va précéder ? Non, mais dans Malachi. Vous avez vu ou pas ? L'Éternel, n'est-ce pas ? Il va précéder l'Éternel. C'est le jour de l'Éternel, il va me précéder. Ce messager va me précéder. Et vous savez, je vérifie, hein, Philippe, qu'ils ont bien révisé, que ce messager, ce nouvel Élie, c'est qui ? C'est Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de textes qui en parlent, il y a au moins 4 textes qui en parlent. Je vais vous en lire juste quelques-uns. Luc 1, 17. On va lire dans deux évangiles. Luc 1, verset 17. Lorsqu'il y a eu l'ange qui a parlé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, que sa femme va être enceinte et qu'elle va avoir un enfant, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Donc ça, c'est Luc 1, 17. Et ensuite, Matthieu, verset 17, verset 10, là, c'est Jésus lui-même qui parle. Matthieu chapitre 17, pardon, verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent qu'Élie doit venir d'abord ? Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toute chose. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Révélation, hein ? Waouh ! Moi, ça m'émerveille, vous savez, de voir des textes qui sont appris 400 ans avant, vous savez. Il annonce des choses et puis elles s'accomplissent, quoi. Elles arrivent. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est juste une petite parenthèse, parce qu'elle est vraiment interpellante, et pour qu'on comprenne qui est notre Seigneur Jésus. Élie précède l'Éternel. N'est-ce pas ? D'après les textes qu'on a lus. Et ils vont citer plusieurs fois ces textes. Jean-Baptiste précède qui ? Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, les amis ? Ça veut dire que Jésus-Christ est l'Éternel. N'est-ce pas ? Ou en tout cas, quand on fait une équation, il est Dieu, le Fils. Il est le Seigneur, et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, dans la Septante notamment, on a toujours le nom Seigneur écrit en grand. Parce que c'est le Seigneur, c'est comme l'Éternel. C'est l'Éternel dans l'Ancien Testament. C'est Yahvé. Et c'est pour ça que lorsque on va parler à Jésus et qu'il y a des hommes qui vont dire « Oui, mais comment tu peux dire que... Abraham se réjouissait de ton jour alors que tu n'étais même pas né, tu n'as même pas 30 ans et tu dis que Abraham, en pensant à ton jour, il se réjouissait. » Vous connaissez la réponse de Jésus ? Avant qu'Abraham fût, je suis. Qui c'est qui dit je suis ? C'est l'Éternel, c'est Yahvé. N'est-ce pas fou, les amis, de comprendre que Jésus-Christ, en fait, c'est Dieu fait chair, mais Dieu fait chair. Et que quand tu es en relation avec Jésus-Christ, tu es en relation directe avec Dieu. Il dira à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ce texte de Malachie, les amis, en parallèle avec les textes que vous connaissez du Nouveau Testament, c'est une des preuves magnifiques que la parole de Dieu, dès l'Ancien Testament, disait que Jésus est Dieu. Quelle grâce ! Quelle grâce ! Alors, les amis, pour terminer, rappelons-nous que nous avons le plus grand des privilèges. Vous connaissez l'Éternel. N'oubliez pas cela. Et si ce n'est pas votre cas cet après-midi, vraiment, je vous encourage. Je vous encourage à revenir à Jésus-Christ qui est mort pour nous. Lui qui était Dieu, il s'est incarné en homme pour pouvoir mourir pour chacun d'entre nous. Venez à lui cet après-midi. Revenez à lui. Peut-être que vous faites partie de celles et ceux qui ont été découragés par vos épreuves et qui regardaient celles et ceux qui prospèrent. Revenez à lui en vous rappelant que vous avez le plus grand des trésors. Vous avez l'Éternel. Vous avez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Et entretenez cela. Développez cette relation. Imaginez, je vous dis... Ah, moi, je suis marié à Priscilla, c'est une femme merveilleuse. Mais par contre, on se voit qu'une fois par semaine. Ce serait bizarre quand même, non ? Non, si c'est une femme merveilleuse, si je suis heureux, ben, je passerai du temps avec elle. J'entretiendrai cette relation et je me réjouirai de cette relation. Est-ce que votre Dieu est merveilleux ? Prenez du temps avec lui. Louez-le. Réjouissez-vous de sa présence. Prenez du temps à le connaître. Prenez du temps à l'appartenir. Deuxièmement, n'oublions pas que le jugement viendra. Oui, Il est vrai que parfois on peut voir les méchants prospérer, on peut voir des hommes et des femmes qui arrivent à des grands sommets, très souvent les milliardaires, les grands présidents, etc. ne sont pas forcément des gens qui honorent Dieu. Mais n'oubliez pas que cela n'est que temporaire, n'est-ce pas ? Les grands patrons, etc. Cela n'est que temporaire. Mais vous, vous investissez dans quelque chose d'éternel. Vous investissez dans quelque chose qui résonnera éternellement. Donc, n'oublions pas cela. Et dès aujourd'hui, nous voyons, hein, vous le voyez, si vous regardez l'histoire, vous voyez que les grands hommes d'État, les grands patrons, finalement, ils ne le sont plus après. Ça se termine, tout ça. Par contre, les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu que nous sommes et que nous investissons, nous le sommes pour l'éternité. Attachés à l'éternel. N'oublions pas cela. Et enfin, n'oublions pas que tout pointe vers la personne de Jésus-Christ. Tout pointe vers son œuvre et tout sera pleinement accompli. Les amis, nous sommes dans un temps que nous appelons le temps du déjà pas encore. Ça veut dire que lorsque Jésus est arrivé sur la terre à travers, lorsqu'il est venu sur la, et qu'il est mort sur la croix, eh bien, il a instauré une nouvelle ère. Mais cette nouvelle ère sera complète lorsque il reviendra pour la deuxième fois. Et là, tout s'accomplira. Tout sera accompli. Les justes seront pleinement rétribués. Les méchants seront pleinement punis. Christ règnera pleinement. Le péché sera pleinement vaincu. Et nous serons pleinement en communion avec lui. Et donc, nous sommes dans cet entre-deux aujourd'hui. Donc, continuons notre marche. Gardons nos regards fixés sur Jésus. Et sachez que ses promesses sont vraies, que lorsqu'il vous dit en Jésus-Christ, reprenons le texte, et j'aimerais vraiment que nous puissions terminer avec ces paroles-là, Malachie chapitre 3. Aujourd'hui en Jésus, les amis, verset 17, vous êtes à l'Éternel, le Maître de l'univers. Vous lui appartenez. Il a compassion de vous comme un homme a compassion de son Fils qui le sert. Alors remercions le Seigneur pour cette relation. Je vais encore prier et je vais encore proposer que nous puissions justement ne pas être comme le peuple d'Israël qui disait « Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas béni comme ça, etc. » mais être plutôt comme le psalmiste qui dit en fait « Oui, c'est vrai que j'ai des moments parfois où je suis idiot, je suis bête, c'est les mots qu'il utilise, mais après je me rappelle qu'il n'y a pas rien de plus beau que d'être en intimité avec toi et toi tu me conduis. » Et tu me sauves. Notre Dieu, notre Roi, merci. C'est vrai que parfois, Dieu Tout-Puissant, on peut être attristé en voyant la méchanceté de ce monde, en voyant l'injustice, en voyant voilà, qu'il n'y a pas des gens qui peuvent s'en sortir alors qu'ils ont fait tellement de mal. Et merci déjà parce que tu nous rappelles que nous-mêmes, nous avons besoin d'être pardonnés de nos fautes. Nous-mêmes, nous avons besoin d'être pardonnés de nos erreurs. Et je te prie qu'il en soit ainsi cet après-midi. Que le plus grand nombre d'entre nous soyons pardonnés de nos erreurs et nous puissions vraiment recevoir cette grâce en Jésus-Christ. Et ensuite, notre Dieu, aide-nous à nous rappeler que le plus grand de nos privilèges, c'est vraiment de te connaître, de t'appartenir, d'être tes enfants, d'être celles et ceux à qui tu donnes une affection particulière. Et je te prie qu'il y en ait toujours plus qui viennent dans ce chemin. Je te prie que dans cette église, vraiment, l'amour de Christ rayonne tellement que de plus en plus d'hommes et de femmes viennent à toi et bénéficient de cette grâce d'être connus de Dieu, d'être aimés de Dieu, de connaître l'Éternel. Je te prie de nous aider à nous souvenir de ta parole, de ne jamais l'oublier, de la méditer, de continuer à marcher à ta suite. Et je te prie de nous aider à garder nos regards fixés sur le message, sur le Fils qui rayonne, qui est la lumière, qui se lève, qui éclaire nos cœurs et qui nous transforme. Fais de nous des hommes et des femmes attachés à toi de tout notre cœur, qui chérissons Jésus-Christ, comme Paul chérissait Jésus-Christ, qui chérissons cette personne et que nous prenions ce temps jour après jour, que nous abandonnions nos péchés et que nous puissions vraiment toujours marcher en nouveauté de vie avec toi. Merci pour l'Esprit Saint, qui nous révèle les bonnes choses, qui nous conduit, qui nous encourage et nous édifie. Nous sommes tellement heureux d'être avec toi, Seigneur. Fais du bien à chacune et à chacun, que ce soit les personnes présentes ou les personnes en ligne. En ton nom, notre Dieu. Amen.